Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 17e épisode d'Erratum, le balado politique à écouter sans faute. Allô Irénée.
Bonsoir Anne.
Comment ça va?
Ça va bien, merci. Toi, comment tu vas?
Moi, un peu moumou, moi. Le vaccin m'a impacté plus que ce que je pensais qu'il aurait fait. Mais bon, ça
Oui,
va passer.
un jour on traitera de ce virus-là en profondeur, mais on va se donner du recul.
Beaucoup, oui. On en a besoin. On va en avoir besoin pour vraiment analyser correctement ce qu'on vient de vivre.
Définitivement.
Mais en parlant de choses importantes, le sujet d'aujourd'hui que tu as choisi, René, est vraiment dense. Tu veux nous parler de la démocratie?
Oui. Aujourd'hui, donc, je crois que la démocratie est aux soins intensifs. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de définir la démocratie. Selon l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. En démocratie, donc, tous les citoyens ont le droit de participer aux décisions. Ils le font par l'entremise des personnes qu'ils élisent. Il s'agit des députés. Et donc, les députés sont choisis pour représenter les citoyens, parce que dans notre démocratie, c'est une démocratie représentative. Parce que tous les citoyens, on ne peut pas tous se réunir au Parlement pour voter les lois. Alors c'est pour ça qu'on délègue, qu'on vote pour les gens qui vont nous représenter.
La définition étant posée d'une démocratie, quels sont les critères?
En général, il est admis que le premier critère, c'est l'égalité de tous devant la loi, la séparation des pouvoirs. Donc, le législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les applique, et finalement, le judiciaire qui les fait respecter. Le troisième critère, c'est le pluralisme politique et l'existence d'élections libres. Et finalement, je pourrais rajouter la liberté de la presse. Alors, on va revenir un peu en arrière pour parler de la démocratie contemporaine. Selon le sociologue français Alain Touraine, un grand sociologue, j'ai pu assister à un de ses cours quand j'étudiais à Toronto. Donc ça, c'était monument en sociologie en France et aussi à l'international. Donc, dans le courrier de l'UNESCO, pardon, il a indiqué que la démocratie moderne est un rêve qui s'est formé surtout dans le monde occidental. Et l'esprit de la démocratie s'est formé en premier lieu en Grande-Bretagne, aux États-Unis et chez vous en France. Alors, cet esprit démocratique devait s'étendre à la terre entière, en commençant par l'Allemagne, l'Espagne, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et finalement le reste du monde. Et après donc la Deuxième Guerre mondiale, la peur du communisme va amener les pays occidentaux à soutenir les régimes dictatoriaux. Donc, on peut citer l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, et dans le même ordre d'idée, après les indépendances des pays africains notamment, les Occidentaux vont soutenir les dictatures. Rappelons-nous que durant la guerre froide, le monde était divisé en deux, le monde était bipolaire. Il y a des pays qui étaient alignés avec les États-Unis d'Amérique et d'autres qui étaient alignés avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. C'était dur à dire. Par ailleurs, il y a certains pays qui se sont réunis à Bandung, si ma mémoire est bonne. Donc, il s'agit de... Il y avait Nasser l'Égyptien, Il y avait Nehru, l'Indien, Tito, qui venait de la Yougoslavie, et Nyerere, de la Tanzanie. Donc, certains pays ne voulaient pas s'aligner avec soit les États-Unis, soit l'URSS, et ont créé un mouvement des pays non alignés. Mais ce mouvement mourra un peu plus tard, je dirais, parce que quand on arrivait devant l'Assemblée générale des Nations unies, les pays s'alignaient soit au camp des Américains, soit au camp
Des soviétiques.
des Soviétiques. Une autre explication pour illustrer la peur ou le fait que les Occidentaux ont relégué la démocratie en arrière, c'est ce que les Américains appelaient la théorie des dominos. C'est-à-dire que le basculement idéologique d'un pays serait suivi du même changement dans les pays voisins. Et ce qui va inciter ou inviter, donc les États-Unis se sont invités dans la guerre au Vietnam au nom de cette théorie-là.
Donc, pour bien comprendre ton point, René, ce que tu dis, c'est que pendant toute la période de la guerre froide, la démocratie était reléguée au second plan.
Absolument. Donc, la guerre froide a duré environ à partir de 1945, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1989, à la chute du mur de Berlin. Et je rajouterais que le monde était tellement étrange que même le Vatican, qui est un pays dirigé par le pape, à l'époque, à partir de 1978, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était Jean-Paul II qui était le pape. Et lui aussi était aligné aux États-Unis d'Amérique, parce que c'était un religieux originaire
De Pologne.
donc de Pologne. Et il aurait joué, ou il a joué, un rôle important dans la chute du mur de Berlin. Alors, quand le pape fait aussi de la politique active, ça illustre bien je sais pas comment le dire, la peur que le camp communiste gagne cette guerre-là.
Et donc là, la chute du mur de Berlin, quel impact cela a-t-il eu sur la démocratie?
L'espoir, hope, comme dirait Obama. Et les anciennes républiques soviétiques adoptent la démocratie. Et en ce qui concerne l'Afrique, c'est très important. Il y a eu un sommet à La Bolle. Tu connais
Oui,
c'est où?
très bien.
C'est beau
C'est
là-bas?
magnifique.
Ok. Parfait. J'ai hâte d'y aller. Tu
On
m'y
ira.
amèneras, j'espère. Alors, revenons à nos moutons. Lors du sommet des chefs d'État d'Afrique et de France, donc en 1990, environ un an après la chute du mur de Berlin, le président François Mitterrand prononce un discours historique dans lequel il invite les pays africains à s'ouvrir à la démocratie. Alors, à cette époque-là, durant cette époque, la France est encore considérée comme une grande puissance, parce qu'elle avait dans sa poche ses anciennes colonies. Alors, je cite un extrait du discours de M. Mitterrand. En passant, c'est un président français que j'estime. La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis vers plus de liberté. Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers ceux qui se comporteraient, pardon, de façon autoritaire et plus enthousiaste envers ceux qui franchiront avec courage son pas vers la démocratisation. Et pour son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Roland Dumas, je ne sais pas si ça te dit quelque chose,
tout à fait.
Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra ou devait inévitablement souffler un jour en direction du Sud. Parce qu'il y avait une théorie qu'il n'y a pas de développement sans démocratie et qu'il n'y a pas de démocratie sans développement. Et j'ajouterai aussi une autre théorie, c'est que il y a une théorie selon laquelle les démocraties ne se font pas la guerre. Et donc, il voulait instaurer la démocratie un peu partout dans le monde parce que les démocraties ne se font pas la guerre depuis un certain temps, en Europe notamment.
Est-ce que Mitterrand a été écouté?
En partie, oui. Je dirais que le multipartisme va s'installer tranquillement. On va parler de l'Afrique. Par exemple, au Bénin, Mathieu Kérékou cédera le pouvoir démocratiquement. Au Mali, la démocratie va s'installer aussi lentement. On y reviendra plus tard sur le Mali. Et on va parler surtout des pays anglophones, disons par exemple le Ghana, la démocratie va s'installer aussi. Et notons que la démocratie s'installe également en Afrique du Sud avec la libération de Nelson Mandela.
Je reviens donc à la question de départ. Quel est l'état de la démocratie aujourd'hui?
La démocratie est en danger. Après l'espoir que le printemps arabe a donné à la démocratie une fois de plus, elle se trouve aujourd'hui, comme je l'ai dit, aux souhaits intensifs. Les signes sont nombreux, donc les alertes sont visibles. On peut commencer par nos voisins du Sud. Le président Donald Trump a été forcé, et j'exagère à peine, à quitter la Maison Blanche. Pendant plusieurs mois, il a refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden. Et lui, le président de la plus grande démocratie du monde, disait constamment que les élections avaient été truquées. Il faut le faire pour l'image des États-Unis dans le monde. Un fait consternant et dangereux, c'est que M. Trump a même incité à l'insurrection. Plusieurs observateurs ont dit qu'il avait tenté de faire un putsch contre Biden. Il a fait en évitant ses partisans à marcher sur le Capitole. Au même moment, le Congrès était réuni pour certifier les résultats de l'élection présidentielle. Le bilan, 5 morts et plusieurs blessés. Toujours aux États-Unis, la sécurité du Capitole a même dû évacuer d'urgence plusieurs leaders du Congrès, dont, écoutez bien, le vice-président de Donald Trump, Mike Pence. En Afrique, le Mali, dont on a parlé récemment pour son exemple en matière de démocratie, il y a eu une alternance pacifique du pouvoir. Alors, aujourd'hui, le Mali est devenu le pays des coups d'État. Récemment, en 2012, il y a eu un coup d'État contre Amadou Toumani Touré, donc on appelait ATT au Mali. Et en 2020, il y a eu un autre coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, et les deux présidents avaient été élus démocratiquement. ATT avaient décidé de ne plus se représenter aux élections. Et donc en 2020, les militaires qui ont fait un coup d'État suite aux pressions des pays importants, donc d'Afrique de l'Ouest, des États-Unis et notamment de la France, ont décidé de mettre en place un gouvernement de transition. Mais il y a quelques jours, en 2021, il y a eu un autre coup d'État, ce que le président Macron a qualifié d'un coup d'État dans le coup d'État. Comme on dit chez nous au Québec, là, il faut le faire. C'est triste, c'est consternant et les mots sont faibles. Revenons au printemps arabe. En Égypte, la rue est sortie pour dégager, comme on le dit en France, je ne sais pas pourquoi je parle plutôt de la France, mais j'aime le mot dégager.
C'est de ma faute.
C'est de ta faute. Hein? Donc, en Égypte, le printemps arabe emporte Monsieur Moubarak, qui était à la tête de ce pays-là depuis des années, et un allié important des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a un coup d'État qui a eu lieu par le maréchal, je ne sais pas s'il est maréchal ou général, mais bref, le général s'appelle Sisi, contre Mohamed Morsi, qui avait été élu démocratiquement. Les puissances occidentales
n'ont pas trop bougé.
Donc, je pense qu'il y a l'Occident peut perdre de plus en plus son influence dans le monde. Nous avons aussi en Afrique des présidences monarchiques. au Togo, Faure Gnassingbé a succédé à son papa, Gnassingbé Eyadema, donc après sa mort. Au Gabon, Ali Bongo a succédé à son papa, Omar Bongo.
On s'entend que c'était sans aucune élection démocratique.
Il y a des élections, entre guillemets,
un semblant d'élection
démocratique. Donc c'est juste un faire-valoir, mais ce ne sont pas des élections libres, comme dans le sens noble de la démocratie, comme nous l'avons...
nous la connaissons.
Ouais. Alors, dernièrement au Tchad, Idriss Déby, un allié incontournable de la France en Afrique de l'Ouest, est mort, semble-t-il. Il y a une guerre chez lui et il est allé au combat. Ce qu'on peut saluer, donc c'est pas un général. Non, lui venait en plus d'être promu maréchal, il venait juste de gagner une élection. Je pense qu'il avait eu plus de 90% de suffrage.
Wow.
Ouais. Donc on appelle ça des résultats staliniens.
C'est pas drôle, mais le mot est beau.
Oui, et donc lui aussi, il a été succédé par son fils, Mahamat Idriss Déby. Alors que la Constitution ne stipulait pas que c'était le fils du président qui devait succéder à son papa. La semaine dernière, en Europe de l'Est, le président Loukachenko de la Biélorussie a détourné un avion dans lequel était un de ses opposants. Il a détourné l'avion comme les terroristes durant donc la guerre froide. Et il a arrêté son opposant qui est aujourd'hui en prison. Et son grand allié, c'est M. Vladimir Poutine, qui est un autre leader autoritaire, pour ne pas dire dictateur, qui ne résigne pas aux moyens pour
accroître son pouvoir.
Accroître son pouvoir et je ne sais pas là, comment tu. C'est quoi le mot pour empêcher ses opposants de parler. Il y a un mot là que.
Là, tu l'as très bien dit comme ça.
Oui, donc. Donc, lui, dernièrement, il a empoisonné un de ses opposants qui s'appelle Alex Navalny et il est allé se réfugier en Allemagne. Il est revenu et aujourd'hui, il est en prison. Poutine n'hésite pas à tuer. Donc, il a tué plusieurs opposants à l'étranger, dont un milliardaire qui s'appelle Boris Berezovsky à Londres et un autre opposant aussi, Alexandre Litvinenko, qu'il a aussi assassiné à Londres. Et en parlant de Poutine, le régime de Bachar al-Assad vit et a survécu grâce à l'appui de Vladimir Poutine. Et Monsieur al-Assad vient de remporter une élection dernièrement avec 95% des suffrages exprimés. Et note, en parlant de la Russie, de l'URSS, et notre résultat stalinien. Eux, il y a aussi un autre monsieur autoritaire qui fait trembler l'Europe, qui est Erdogan, le président de la Turquie, qui est
Exact.
aujourd'hui un despote, qui a survécu, il faut lui donner ça, à une tentative de coup d'État il y a quelques années. Depuis ce coup d'État manqué, il est devenu presque, en tout cas, on va dire le mot, là, c'est un dictateur. Et plusieurs opposants sont en prison, dont plusieurs journalistes. En Chine, une autre grande puissance mondiale, une puissance qui est en croissance, le président Xi Jinping, je ne sais pas si je prononce le mot qu'il faut, a modifié dernièrement la constitution et il est devenu un président éternel.
Ah, mon Dieu.
Donc, il peut rester au pouvoir, en tout cas, toute sa vie
Jusqu'à sa
terrestre.
mort.
Ouais. Il est même accusé de génocide contre les Ouïghours,
Oui.
donc, qui sont les musulmans dans son pays, et il réprime violemment les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Et le monde occidental
N'a pas trop bougé.
ne bouge pas trop parce que, en tout cas, il est clair que le monde, les Occidentaux sont en chute libre, en tout cas, présentement. C'est mon point de vue. En Arabie Saoudite, tu avais quelque chose à dire là-dessus?
Non, vas-y, continue.
Ok. En Arabie Saoudite, donc, il y a le prince héritier, Mohamed Ben Salman, qu'on appelle MBS, a tué un opposant, Khashoggi, dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.
On se rappelle de cette histoire aussi.
Et les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis n'ont pas été trop entachés. Le Canada, notre pays qui fait la promotion de la démocratie, a continué, si ma mémoire est bonne, à vendre des tanks militaires à l'Arabie Saoudite.
Mais ce dont on se rend compte en fait quand tu dis comme ça aussi, je sais pas si t'avais prévu de le dire ou non, mais c'est que semble-t-il, c'est que les intérêts économiques des pays occidentaux vont au-delà du principe de démocratie.
Oui, le général de Gaulle avait dit, si ma mémoire est bonne, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que
Les intérêts.
des intérêts. Alors, ça résume tout. Et après tous les exemples, ah non, j'ai oublié un autre exemple. Il y a un autre coup d'État des généraux qui vient de se dérouler au Myanmar. Donc, dernièrement. Et en tout cas, le coup d'État a fait la manchette pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, dans les médias, on n'en parle presque plus. Ce qui est très dommage. Donc, la démocratie est fragile et le mot est faible. Après tous les exemples que nous venons de partager, je dois avouer que je suis pessimiste. Est-ce qu'il y a une solution? Je ne la vois pas. Moi, je suis un observateur pragmatique. Le printemps arabe a été un espoir, on l'a dit tout à l'heure, mais le printemps a été un espoir temporaire, je dirais même un espoir anecdotique. C'est vrai que la démocratie est un idéal, mais moi je suis un homme nostalgique des grands hommes, ce qui peut biaiser peut-être ma lecture du monde actuel, mais je reste droit dans mes bottes, comme dirait l'autre, et je me pose la question, avons-nous des leaders qui sont prêts à mourir pour cet idéal? Avons-nous un Gandhi? Avons-nous un Martin Luther King? Et comme dirait Mandela, en parlant de cet idéal, je le cite, c'est un idéal que j'espère défendre ma vie durant, mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ça, c'était en 1963, avant d'être arrêté, et il passera 27 ans en prison. Alors, source au pessimisme, ce constat déplorable, en tout cas, souhaitons, espérons que la démocratie reviendra à la une des agendas politiques des puissances mondiales, mais je ne sais pas.
Mon point là-dessus, ce serait plutôt que il y a encore et toujours de l'espoir. Malgré tout, de la même façon que c'est le peuple, par exemple en France, en 1789, qui a pris le pouvoir et puis bon gré mal gré, à un moment donné, a réussi à mettre en place les droits de l'homme et les principes de la démocratie qui ont été ensuite développés par aux États-Unis. Je pense que c'est la démocratie et reste un idéal que on est énormément de personnes à y croire encore. Et là où le communisme, justement, qui est une belle utopie, est tombé, notre démocratie, c'est une utopie aussi, mais qui est peut-être plus facilement applicable. Les règles, les droits sont déjà mis en place là-dessus et on y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Et je pense qu'il y aura toujours des gens pour se battre pour cette démocratie.
Ouais, mais tu es plus optimiste que moi. Ouais. J'espère que l'avenir te donnera raison.
Oui, c'est à souhaiter.
Oui, on prend un pari?
Oui, je veux bien parier très cher.
Ok, moi je ne suis pas riche.
Moi non plus, mais... Donc, un dernier mot, Irénée?
Non, mais peut-être, mais...
Oui, un oui.
Oui, donc nous avons appris que M. Trudeau va nommer un nouveau gouverneur général ou une nouvelle gouverneure générale d'ici le 24 juin prochain. Donc j'ai hâte de voir qui ça sera. Et il y a aussi un ministre en danger, très en danger, qui est peut-être, qui va se noyer bientôt. Donc, il s'agit du ministre de l'Éducation au Québec, Jean-François Roberge. Donc, ce sont les choses que nous allons surveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, c'est tout.
Très bien. Alors, très bonne semaine politique à tous et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir et merci d'être à l'écoute.
Merci.